madame. Bonjour, monsieur. Ravi de vous retrouver pour Votre Santé, Votre Avenir, le magazine d'information sur la santé de VOA Afrique, présenté par Nanit Talani. Nous discutons de la santé publique en Afrique, qui reste la région du monde où les problèmes de santé se posent avec plus d'acuité. Selon l'OMS, ce continent porte 25%, soit le quart, de la charge mondiale des maladies. D'où l'importance d'une bonne stratégie de santé publique, ses efforts des institutions et autorités publiques visant à améliorer, promouvoir et restaurer la santé de la population. Quelles sont les bonnes stratégies de santé publique? Quelle est l'importance de l'accessibilité aux structures sanitaires? À quelles maladies les populations africaines sont encore le plus confrontées?
Dans nos pays qu'on appelle pays en voie de développement, les maladies les plus importantes sont les maladies infectieuses et les maladies qui sont dues à des microbes.
Voici quelques questions auxquelles répondra le docteur Malunga Mietudila, l'invité de ce programme « Votre santé, votre avenir ». Le docteur Malunga Mietudila est spécialiste en santé publique et président du conseil d'administration de Sanro Asbel en RDC, dont l'un des domaines d'intervention est la santé publique. Ensuite, dans la seconde partie de notre programme, nous vous proposerons un carnet de santé avec Linor Moudou.
Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine.
Voici le moment de suivre l'interview que nous a accordé le docteur Malunga Mietudila.
Donc, merci en tout cas d'avoir accepté cette invitation. Nous allons donc parler de ce que votre organisation fait, notamment en matière de santé publique. Mais avant même d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous expliquer ou bien nous parler de ce que c'est que Sanro?
Oui, qu'est-ce que c'est que Sanro? Sanro, en fait, c'est un acronyme pour santé rurale. Donc, c'est un programme qui a commencé en 1981 grâce à l'USAID. L'USAID est le père de Sanro. Maintenant, nous l'avons accepté. Et donc, si on peut dire le père de Sanro, c'est l'USAID. Et la mère de Sanro, c'est l'Église du Christ au Congo, la Fédération des Églises protestantes du Congo. Donc, en 1981, Sanro est né avec l'accord du gouvernement zaïrois à cette époque. Et depuis lors, nous travaillons pour la promotion de la santé, principalement en zone rurale.
Ah, okay.
Maintenant, le U, là, est devenu ruro-urbaine parce que les villes du Congo ne sont pas tellement différentes des zones rurales.
Merci beaucoup. Alors, dans quelle province Sanro a-t-elle ses activités?
Ah, nous sommes présents dans les 26 provinces de la RDC. Donc, nous sommes présents partout. La RDC est divisée en zones de santé et nous couvrons 516 zones de santé sur les 516 qui existent.
Merci. Et quels sont vos principaux domaines d'intervention?
Bon, nous avons été créés en fait pour promouvoir les soins de santé primaires, mais pour des raisons de contraintes budgétaires, nous sommes réduits maintenant à quelques activités principales, notamment la lutte contre le paludisme, la lutte contre le VIH, la lutte contre la tuberculose. Il n'y a que quelques zones de santé où nous faisons vraiment tout ce que nous sommes obligés de faire, ça veut dire la santé, tous les soins de santé primaire. C'est dans le Kasaï.
Alors, on aimerait savoir, puisque vous intervenez aussi dans le domaine de la santé publique, comment pouvez-vous expliquer ce que c'est que la santé publique et quelle est surtout son importance?
Eh bien, la santé publique s'oppose à la santé individuelle. Parce que, comme vous savez, un médecin a pour mission de soigner un malade. C'est ce qu'on appelle, ce que nous appelons la médecine clinique. La plupart de nos médecins font cette partie de la médecine, cet aspect de la médecine qui est la médecine personnelle, personnalisée ou privée. le rapport entre un médecin et un malade. Maintenant, il y a une autre partie de la médecine qui voit une communauté comme un malade. Donc à ce moment-là, on parle de santé publique. Cette communauté peut être un village, un territoire ou un pays. C'est ça, la santé publique. C'est cette partie de la médecine qui donne la priorité à la promotion de la santé communautaire plutôt que de la santé individuelle. Évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, et la santé publique et la santé individuelle, il y a des zones de superposition. C'est une question simplement de priorité. Ouais. Qu'est-ce qu'on définit comme son malade? Un médecin vous dit, mon malade s'appelle Eugénie. Et l'autre médecin va vous dire, mon malade, surtout, c'est défini comme la République populaire du Congo, et le Niger. Le Niger, c'est mon malade. Tandis qu'un autre médecin va dire, moi, mon malade a un nom, un individu ou bien des individus.
D'accord. Alors, suivant les actions que vous menez sur le terrain, quels sont les principaux problèmes de santé publique auxquels les populations sont souvent confrontées?
Bon, ça dépend des pays. Si on divise le monde en pays développés et en pays sous-développés, les maladies les plus importantes diffèrent. Dans nos pays qu'on appelle pays en voie de développement, les maladies les plus importantes sont les maladies infectieuses, des maladies qui sont dues à des microbes, enfin des maladies de la pauvreté. Les gens n'ont pas un bon environnement, l'environnement est malsain, donc c'est les gens dans ces pays là-bas tombent souvent malades à cause des microbes, de la malnutrition. Ils n'ont pas accès à l'eau potable, donc dans ces pays là-bas vous allez avoir surtout des maladies dues aux mains sales, bien dues à l'eau malpropre, des diarrhées. Alors que dans les pays développés, comme l'environnement a été assaini, les maladies des microbes ont reculé. Il y a très peu de maladies infectieuses dans les pays développés. Dans les pays développés, comme les gens sont dans un environnement sain, ils vivent plus longtemps. Donc dans ces pays là-bas, on voit plutôt les maladies de l'âge avancé, comme le diabète, les maladies cardiaques. C'est parce que bon, les gens vivent plus longtemps, ils attrapent des maladies de la dégénérescence, les maladies de la vieillesse. Il y a une autre chose qui me paraît très intéressante. Dans les pays du Nord, où le sens de la famille a disparu plus ou moins, de sorte qu'on y trouve beaucoup plus les maladies de la solitude, de la dépression, des maladies du stress. Donc voilà, si on peut contraster le monde développé et le monde en voie de développement.
Là, c'est de façon générale, mais si on veut rester plus précis en ce qui concerne l'Afrique en général et la RDC en particulier, quelles sont les maladies les plus courantes qu'on y trouve?
Voilà. Il suffit seulement de regarder les statistiques. Quelles sont les maladies qui tuent les Africains? Premier, le paludisme, la malaria. Deuxième, les infections respiratoires aiguës. Troisième, les diarrhées, les maladies diarrhéiques. Et puis alors, il y a la tuberculose, il y a le VIH, mais vraiment, la COVID, ces maladies viennent vraiment en quatrième, cinquième position par rapport aux maladies que j'ai citées. Le paludisme, c'est le grand tueur. Les diarrhées, c'est le grand tueur des enfants. Et les infections respiratoires, c'est un autre grand tueur des enfants. Si je peux mettre les maladies sur un podium, je ferai ça.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique.
Et qu'en est-il des femmes enceintes? Quelle est la situation des femmes enceintes?
Pour l'Afrique en général, je dirais que la femme enceinte est encore sous ce qu'on nous a présenté comme étant la malédiction de Ève. La maternité fait beaucoup de ravages en Afrique. Nos soeurs, nos mamans aiment accoucher. Malheureusement, l'accouchement, la grossesse, l'accouchement ne se fait pas dans des conditions correctes. De sorte que sur 100 000 naissances, on a 100 000 naissances vivantes, on a souvent en Afrique 500 femmes qui meurent. Je peux dire que chaque jour, parce que moi, ce que j'ai dit au Congo, chaque jour qui passe au Congo, il y a au moins 6 femmes qui meurent de complications de la grossesse au moment de l'accouchement. Parce que les conditions d'accouchement ne sont pas bonnes. C'est 100 fois plus que dans les pays développés. Les gens n'ont pas d'informations sur la santé. Donc si on peut aussi augmenter les connaissances, les bonnes connaissances de la population en matière de santé, le meilleur médecin de quelqu'un, c'est lui-même. Donc quand l'individu a une bonne information sur sa santé, il devient son meilleur médecin. C'est les malades qui prennent la décision de venir à l'hôpital. Et souvent quand ils viennent à l'hôpital, c'est trop tard, parce qu'ils n'ont pas la bonne information. Ils ont essayé beaucoup de choses qui ne marchent pas et ils viennent à l'hôpital seulement pour mourir. Voilà l'importance de l'éducation pour le changement des comportements. Assainir l'environnement physique, psychologique de l'Afrique. Donc, si nous faisons l'hygiène publique et nous faisons la bonne éducation, il y aura moins de problèmes auxquels nous sommes confrontés pour le moment.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique.
Et qu'en est-il de l'accessibilité aux structures sanitaires?
Il y a deux sortes de problèmes à ce moment-là. Il y a d'abord l'accessibilité physique. Aller au village, dans les zones rurales, moi j'y vais de temps en temps. Et parfois, en route, je rencontre des malades qui ont finalement décidé, après avoir été malades pendant longtemps, d'aller à l'hôpital. Mais à quelle distance se trouve le premier centre de soins? 10 km, 15 km, là vous avez encore la chance. Mais souvent, c'est au-delà de 20 km. Bien, il n'y a pas de route, il n'y a pas de bon moyen de transport. Oh là là, j'ai rencontré beaucoup de malades qui étaient transportés à l'hôpital sur des civières. Et par des gens qui marchent, parfois sur 50 km pour aller à l'hôpital. Ça, c'est d'abord la distance géographique. Nous luttons contre ça en essayant de décentraliser les soins. Ça veut dire, en faisant en sorte que certaines maladies soient soignées au niveau du village par des non-médecins et des non-médicaux. Voilà une stratégie. L'autre obstacle, c'est financier. Quand finalement vous arrivez avec le malade à l'hôpital, il faut encore que le malade paye. Hélas, dans beaucoup de nos pays, il n'y a pas de bon système d'assurance. Et le malade doit payer de sa poche au moment des soins. Et il y a des femmes, que moi j'ai vues, qui sont mortes parce qu'ils n'avaient pas d'argent pour se faire opérer pour la césarienne. Il y a des enfants qui meurent parce qu'ils n'ont pas d'argent, soit pour se faire consulter ou, même quand ils ont été consultés, pour avoir l'argent pour payer les médicaments. Donc, c'est un obstacle financier. Troisième obstacle psychologique. Les gens ne croient pas en la médecine qu'ils appellent la médecine des blancs. Alors que la médecine est quelque chose d'universel, il n'y a pas de médecine des blancs, médecine des Chinois ou médecine des Noirs. La médecine est une à cause de certaines pesanteurs sociologiques. Les gens préfèrent ne pas aller à l'hôpital, qu'ils appellent l'hôpital des Blancs, même s'il y a des Noirs qui travaillent là-bas, mais c'est l'hôpital des Blancs. Alors ils essayent la médecine empirique qui n'a pas toujours l'efficacité qu'on lui donne, et alors les gens meurent.
C'était notre entretien avec le docteur Malunga Nyatuzila, spécialiste en santé publique. Il est aussi le président du conseil d'administration du Sanro Asbel en RDC, une ONG dont la santé publique est l'un des domaines d'intervention. Voici à présent le moment de suivre Carnet de santé avec Linor Moudou.
Cette semaine, dans Carnet de santé, nous mettons en lumière la santé et l'hygiène menstruelle, alors que des millions de femmes et de jeunes filles dans le monde n'ont pas accès aux outils nécessaires. Le docteur Douglas Mwaniki, gynécologue kényan, nous fait part de ses réflexions et certaines pratiques en matière d'hygiène menstruelle. Au Kenya, des distributeurs automatiques de billets reconvertis permettent aux étudiantes d'obtenir gratuitement des serviettes hygiéniques. Enfin, dans notre rubrique Changemakers, Loveta Poila, entrepreneuse sociale et activiste libérienne, sensibilise le public à la pauvreté menstruelle. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour, Linor Moudou en votre compagnie. Merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de santé. La santé et l'hygiène menstruelle sont des questions cruciales qui touchent les femmes et les jeunes filles du monde entier. Chaque mois, près de 2 milliards de femmes et de jeunes filles dans le monde ont leurs menstrues. Cependant, selon les Nations Unies, des millions d'entre elles ne disposent pas des outils et des informations nécessaires. Les experts affirment que pour de nombreuses femmes et jeunes filles en Afrique, la gestion des menstruations implique le recours à des solutions peu sûres et peu hygiéniques, comme les chiffons et les feuilles, qui peuvent entraîner de graves problèmes de santé. Un rapport de l'UNICEF datant de 2023 révèle qu'environ une fille sur 10 en Afrique subsaharienne s'absente de l'école pendant son cycle menstruel en raison du manque d'accès à des produits d'hygiène et à des installations sanitaires adéquates. Nous commençons au Sud-Soudan où des étudiantes de deux écoles primaires dans un camp de personnes déplacées à Juba ont reçu des kits de dignité pour les aider à poursuivre leurs études sans interruption. Gidine Niwa raconte.
Dans tout le Soudan du Sud, les jeunes femmes se heurtent à de nombreux obstacles à l'éducation. Les problèmes incluent les conflits, la pauvreté, les obstacles culturels tels que le mariage précoce, la pénurie d'enseignants qualifiés et la destruction des infrastructures. En outre, le manque d'accès aux produits d'hygiène de base signifie que beaucoup d'entre elles ne peuvent pas aller à l'école lorsqu'elles ont leurs règles.
Nous sommes toutes uniques d'une manière particulière. Nous venons toutes de régions différentes, mais nous sommes unies dans un aspect de la vie qui est notre cycle menstruel. C'est un obstacle à l'éducation pour la plupart d'entre nous. Mais Days for Girls a conçu un kit qui aide les filles à aller à l'école.
Days for Girls est une organisation à but non lucratif qui prépare et distribue des solutions durables en matière de santé menstruelle pour les filles qui autrement ne pourraient pas aller à l'école pendant leurs règles. Les kits sont lavables, réutilisables et durent en moyenne 3 ans.
Ces kits signifient vraiment beaucoup pour nous parce qu'ils peuvent nous aider pendant nos cycles. C'est sûr que j'ai manqué l'école à cause de mon cycle. Je n'ai pas de serviettes hygiéniques, mais maintenant que je les ai, je suis heureuse et si excitée.
Les experts affirment que les enfants nés d'une mère éduquée ont 50% de chances de survie en plus. Les risques de mariage d'enfants et de grossesse précoce sont également plus faibles lorsque les filles sont scolarisées. Pourtant, le groupe le plus important d'enfants non scolarisés au Soudan du Sud est constitué de filles. Leurs enseignants les encouragent à ne pas renoncer à leur éducation.
Ne décevons pas le groupe qui est venu aujourd'hui. S'ils viennent la prochaine fois, qu'ils nous trouvent à l'école, pas dans nos maisons. Mes filles étudiantes, en tant que seule enseignante, je suis ici pour soutenir les filles.
La police des Nations Unies, qui visite fréquemment le camp de déplacés et interagit avec les habitants, en particulier les jeunes, se joint volontaire.
Vous devez vous abstenir de consommer des drogues et des substances, principalement de l'alcool. En tant qu'étudiant, vous êtes censé vous concentrer sur l'école.
Les élèves apprécient le soutien de tous car ils sont en mesure d'assister aux cours à tout moment et de travailler pour un avenir meilleur et plus brillant.
Le docteur Douglas Mwani, qui est gynécologue à l'hôpital Kenyatta et à l'hôpital Nazareth à Nairobi, au Kenya. Il nous fait part de son point de vue sur les meilleures pratiques en matière de santé et d'hygiène menstruelle.
Pendant la période menstruelle, il y a ce qui est normal et ce qui ne l'est pas. Ce qui est normal varie d'une femme à une autre. Mais l'écoulement dure de 2 à 8 jours et nous nous attendons à ce qu'une femme perde de 20 à 80 millilitres au cours de ces 2 à 8 jours. Habituellement, le taux de pH que le vagin est censé avoir est légèrement acide et se situe entre 3,5 et 4,5. À ce pH, les sécrétions vaginales ne sont pas nauséabondes et peuvent protéger la femme contre les infections car les conditions acides ne sont pas propices à la croissance bactérienne ou à toute autre infection par des germes. Elles fournissent également une immunité innée contre d'autres infections éventuelles. Les gynécologues ont tendance à recommander l'utilisation de produits hygiéniques pendant les règles afin d'améliorer l'hygiène. La coupe menstruelle est la plus recommandée car elle ne retient pas les menstruations et ne les imbibe pas. Elle permet simplement aux menstruations de s'écouler. Nous recommandons également les serviettes hygiéniques ou les tampons. Nous préférons les serviettes en coton qui peuvent être absorbantes. Et nous ne voulons pas qu'elles soient trop dures afin qu'elles soient douces pour la peau et les lèvres. Nous recommandons de les changer toutes les 4 à 6 heures. Si vous utilisez des tampons, nous vous conseillons également de les changer toutes les 4 heures. L'hygiène menstruelle et la consommation d'eau sont liées en ce sens que boire de l'eau améliore la santé générale du corps. Lorsque vous avez vos règles, les déséquilibres hormonaux à cette période, lorsque les niveaux de progestérone et d'oestrogène ne sont pas bien réglés, peuvent entraîner des choses comme les ballonnements et des crampes, et une meilleure consommation d'eau aide à réduire les ballonnements et les crampes. Vous pouvez avoir des infections bactériennes récurrentes, ce qui crée une opportunité pour d'autres infections de se développer. Vous risquez donc de souffrir d'infections telles que la vaginose bactérienne et les infections à mycose qui finissent par produire des pertes malodorantes ou nauséabondes. De nombreuses personnes n'ont pas les moyens d'acheter des serviettes hygiéniques. Je pense que le gouvernement devrait intervenir dans le domaine de l'hygiène menstruelle pour que les jeunes filles restent à l'école. Et je pense qu'il devrait fournir des serviettes hygiéniques tous les mois. Mais tous les mois, ce n'est peut-être pas possible parce qu'il n'y en a pas assez de stock. Et pendant la période de rupture de stock, les filles risquent de ne pas aller à l'école. L'essentiel est que le gouvernement mette en place une éducation complète pour les jeunes filles afin qu'elles comprennent le cycle menstruel.
Pensez-vous que l'éducation à l'hygiène menstruelle est suffisante dans les écoles et les communautés? Et dans quelle mesure est-il difficile d'accéder aux produits d'hygiène menstruelle et de se les offrir? Voici quelques réactions du Nigeria.
Je ne pense pas que ça soit suffisant. Je pense qu'il y a un nombre raisonnable de personnes qui font de la sensibilisation à la précarité, de l'éducation à l'hygiène menstruelle ou de la gestion de l'hygiène menstruelle, mais ce n'est pas suffisant.
Honnêtement, je ne pense pas que l'éducation à l'hygiène menstruelle soit suffisante dans les écoles et les communautés. Il y a une culture du silence qui prévaut parce que les menstruations sont considérées comme quelque chose qui doit être caché. Et à cause de cela, beaucoup de filles sont privées d'une éducation et d'une sensibilisation suffisante sur la manière de prendre soin d'elles-mêmes, sur ce qu'il faut faire lorsqu'elles ont leurs règles.
Beaucoup de gens considèrent les menstruations comme un sujet tabou ou honteux dont on ne peut pas parler à l'extérieur. Je pense donc que si l'éducation est suffisante, le fait d'avoir une conversation ouverte sur les menstruations permettra de réduire les mythes et les idées fausses et les gens, en particulier les jeunes filles, auront suffisamment de connaissances sur les menstruations et l'hygiène.
En ce qui concerne l'accessibilité des serviettes hygiéniques, le gouvernement et les décideurs politiques doivent se pencher sur la question. Je sais que les préservatifs sont moins chers et qu'ils sont distribués gratuitement dans les écoles. Je ne dis pas qu'ils devraient nous donner les serviettes gratuitement, mais ils peuvent réduire le prix pour que les gens des autres localités puissent se les procurer.
Au Kenya, un partenariat public-privé fournit gratuitement aux étudiantes des serviettes hygiéniques à l'école à partir de distributeurs automatiques. L'objectif est de fournir des serviettes hygiéniques aux élèves issus de familles pauvres afin qu'elles ne soient pas obligées de manquer l'école en raison de leur menstrues. Un reportage de Victoria Amonga, récit Blanche Sanou.
Au Kenya, les étudiantes issues de familles pauvres sont souvent obligées de rater l'école pendant leurs règles parce que le prix des serviettes hygiéniques est hors de portée. Mais le groupe immunitaire kenyan appelé Slum Sana a lancé en mai une initiative dans un lycée de Nairobi qui fournit des serviettes gratuites aux étudiantes. Voici comment ils sont distribués aux élèves des écoles. Chaque fille reçoit une carte spéciale qu'elle peut utiliser dans un distributeur automatique aménagé pour distribuer des serviettes hygiéniques.
Chaque fille se voit attribuer au moins 8 à 16 serviettes hygiéniques par cycle, ce qui signifie qu'à chaque fois qu'elle souhaite utiliser les serviettes hygiéniques, elle peut le faire tant qu'elle a sa carte. Si elles n'ont pas leur carte, si elles l'oublient à la maison ou l'égarent, les enseignants reçoivent une carte supplémentaire.
Le gouvernement kenyan affirme que des études montrent que les filles issues de familles pauvres qui ratent l'école s'élèvent à 20% chaque année parce qu'elles n'ont pas de serviettes hygiéniques. Le distributeur de serviettes peut contenir jusqu'à 36 serviettes et fonctionne à l'énergie solaire dans les zones reculées.
La technologie est très importante pour résoudre ce problème, en particulier dans le domaine dans lequel nous nous trouvons, à savoir la gestion de la santé menstruelle. Donc je pense que cela permet aux étudiantes d'avoir de l'autonomie. Donc on élimine les intermédiaires.
Les responsables affirment que l'initiative est mise en œuvre à Nairobi et qu'ils espèrent l'étendre également à d'autres régions du pays.
Cela va nous aider à rester à l'école. On ne demandera pas à la plupart de nos parents d'acheter eux-mêmes les serviettes hygiéniques car elles sont facilement accessibles à l'école.
Une loi de 2017 au Kenya stipule que les étudiantes qui atteignent la puberté doivent recevoir des serviettes hygiéniques gratuites, mais les éducateurs affirment que le manque d'accès continue d'être un gros problème et affecte les étudiantes qui n'en ont pas les moyens.
Nos filles souffrent d'une faible estime de soi à cause de la mendicité. Elles mendient auprès des professeurs lorsqu'elles sont à l'école. Elles viennent même au bureau du directeur pour demander les serviettes hygiéniques quand elles ont leurs règles.
Les militants font pression sur le Kenya pour qu'il supprime les taxes sur les serviettes hygiéniques afin d'en réduire le coût. En attendant, les défenseurs affirment que des technologies telles que le distributeur de serviettes aident à alléger le fardeau des filles et leur permettent d'assister aux cours comme les autres élèves.
Selon un rapport de l'UNESCO, une fille sur 10 en Afrique manque ou abandonne l'école parce qu'elle n'a pas accès à des produits menstruels. Appelée pauvreté menstruelle, ce problème mondial affecte les filles dans les communautés les plus pauvres. Au Libéria, Loveta Kwala, une entrepreneuse sociale et activiste, sensibilise les gens à ce problème tout en plaidant et en éduquant les jeunes femmes sur la manière de surmonter ce défi. Un reportage de Jackson Vungani, récit Nani Talani.
Au Libéria, comme dans de nombreux pays en développement, la pauvreté et le manque d'accès aux produits d'hygiène menstruelle ont contraint de nombreuses jeunes filles à sécher l'école. Loveta Kwala, entrepreneuse sociale et ancienne élève du Mandela Washington Fellowship Program for Young African Leaders, YALI, on a une idée.
Je connais bien les maux liés au fait de ne pas avoir les moyens d'acheter des produits menstruels et les problèmes de santé que cela peut causer dans la vie d'une jeune personne ou d'une jeune femme et qui peuvent persister jusqu'à l'âge adulte.
Plutôt que de se laisser abattre par cette situation qui, selon Kwala, expose les filles à de graves risques sanitaires, à la stigmatisation sociale et à l'isolement social, elle a fondé Positive Actions Thriving Safety, PADS, une initiative de mentorat visant à fournir chaque mois des produits hygiéniques aux jeunes filles.
C'est la fin de cette édition de Votre Santé, Votre Avenir, dont l'invité était le docteur Malunga Nyatudila, spécialiste en santé publique et président du conseil d'administration de Sanro Asbel en RDC, une ONG qui intervient aussi en matière de santé publique. Ensuite, nous vous avions proposé Carnet de Santé. Ce magazine santé a été présenté par Nani Talani grâce à la réalisation de Michel Joseph. Continuez d'écouter VO Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir.